panne de pêcheurs. Pas vraiment des maisons, juste des trucs pour entreposer du matériel. J'avais soif, mais je n'ai pas osé me pencher pour boire. J'avais trop peur qu'une bête tapie dans l'eau en sorte brusquement pour me happer d'un coup et m'entraîner vers le fond. Je suis allée jusqu'aux cabanes, mais elles étaient toutes fermées par de gros cadenas. J'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. Il n'y avait plus que le noir qui m'enveloppait. J'avais l'impression qu'il rentrait dans mes narines, qu'il se glissait dans ma gorge, qu'il étouffait mes cris. Et puis finalement la lune est réapparue, et j'ai vu une barque bâchée à moitié tirée sur le rivage. J'ai pensé que ce serait au moins un abri en attendant qu'il fasse jour. J'ai marché jusqu'à elle, j'ai soulevé la bâche et je me suis glissée à l'intérieur. Il n'y avait que des vieux bidons vides et une veste d'homme qui sentait le moisi. Je me suis allongée sur un des bancs de nage, j'ai tiré la bâche au-dessus de moi et je me suis endormie, enveloppée dans la veste, en écoutant le clapotis de l'eau sur la coque, tandis que lentement, entraînée par mon poids, la barque glissait vers la rivière. J'ai jamais trop su ce qui, aux yeux de Léo, la liait vraiment à moi. Est-ce que je représentais un souvenir d'enfance, un moment où sa mère était encore là? Est-ce que j'étais tout ce qui restait d'une forme de famille? Est-ce que c'était juste par habitude qu'elle calait ses pas sur les miens et restait sans rien dire alors que je voulais occuper tout l'espace? En tout cas, moi, à 17 ans, et même bien avant, j'avais compris ce qui me liait à elle. Ce soir-là, maman était encore partie chercher des trucs pour le réveillon, parce qu'elle est comme ça, ma mère. Elle remplit les placards, les assiettes, les ventres. Elle dit qu'elle a manqué de tout quand elle était jeune et qu'elle préfère prévoir, mais je la soupçonne de vouloir surtout retirer tout ça de la bouche des autres. C'est toujours ça de prix pour les hélices. J'ai plus de vêtements que je pourrais jamais emporter. Des chaussures, des sacs, des affaires de ski, de plage, de randonnée, et même une voiture toute neuve qui dort dans le garage et qui a heureusement été sauvée des eaux. De temps en temps, je m'installe au volant, et j'imagine ce jour béni où je partirai enfin pour l'université, loin d'ici, dans un autre état. Papa l'a acheté au type qui a repris le garage de Seth, donc d'une certaine manière, elle a un lien avec cette époque. Maman n'était toujours pas rentrée, alors papa m'avait réchauffé des macaronis au fromage avant de m'expédier au lit. J'étais en train de relire la liste des cadeaux que j'avais demandé pour Noël, au cas où j'aurais oublié un truc. Et j'avais entendu une voix de femme. Une voix rauque, reconnaissable entre toutes avec son accent. Je suis sortie sur le palier et je me suis assise sur la moquette. Livia était avec mon père à l'entrée de la cuisine. Je ne voyais que ses cheveux et je l'entendais chuchoter, plantée devant lui. Très près de lui, en fait. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais de temps en temps, quelques mots s'échappaient. Seth, le garage, aide-nous. Pas rester sans rien faire. Livia n'était pas venue à la maison depuis que Seth avait pleuré devant papa, et bizarrement, je me suis demandé quelle tête ferait maman en la trouvant dans sa cuisine. Papa murmurait aussi. Il disait qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas le droit de faire de différence. J'ai pensé qu'il n'avait vraiment plus d'argent pour que Livia vienne le supplier comme ça. Papa a pris le poignet de Livia. Elle a arrêté de parler et s'est mise à pleurer. Faut croire qu'il était doué pour faire pleurer les gens. Et là, il a posé son front contre le sien, et je suis restée pétrifiée. Quelque chose clochait. Je n'avais jamais vu faire ça avec ma mère. Il a murmuré quelques mots à Livia. Elle a doucement libéré son poignet. Elle s'est éloignée de quelques pas. Je voyais mieux son visage. Elle a essuyé ses yeux du revers de sa manche, et elle lui a dit de la voix la plus triste que j'ai jamais entendue. « Luciane, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour elle. Tu ne peux pas laisser ta fille crever de faim. » Elle est repartie. J'ai entendu le bruissement de sa jupe longue. La porte a claqué et quelque chose s'est rompu dans ma poitrine. Je m'en souviens très bien. C'était juste au niveau de mon cœur. J'observe mon père. Il est à la même place, la tête collée contre la vitre, en pyjama, pieds nus. Hier soir, ils se sont disputés, c'était pas vraiment une dispute en fait. Il y avait que maman qui parlait, et ça grondait comme le tonnerre. Une conversation avec elle, c'est pas une conversation, juste un putsch. Une fois qu'elle a fini de lui dire ce qu'elle avait à lui dire, elle a cassé un vase pour la forme,